Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant à l'écoute de Radio France Internationale, 3h30 en temps universel, une heure de plus à Paris.
Vincent Dublange.
Et Afrique Matin qui s'ouvre avec le journal. Une mobilisation dans plusieurs endroits du Mozambique hier pour cette nouvelle séquence de contestation des résultats des élections générales à l'appel de l'opposant Venancio Mondlane. Dans le nord, à Nampula, il y a eu au moins 6 morts dans la répression. Dans la capitale Maputo, c'était plutôt calme. Gros déploiement sécuritaire, mais les contestataires ne baissent pas les bras, vous entendrez. On continue d'essayer de vous faire comprendre la situation humanitaire catastrophique à El Fasher au Darfour, dans l'ouest du Soudan. La grande ville est toujours assiégée, on le disait hier. Une humanitaire nous apporte son témoignage. La France reprend son aide budgétaire à la Centrafrique. Nouvelle étape du réchauffement des relations voulues par les deux présidents en avril dernier. On va parler de cet accord de financement pour deux programmes différents entre le FMI et la RDC. On parle des pluies, de la saison des pluies qui arrive à Madagascar et notamment à Antananarivo. Elle peut faire le bonheur du point de vue des agriculteurs ou de la production d'électricité, mais les habitants des bas quartiers se prépare avec appréhension. Il y a des mesures préventives. Reportage dans une dizaine de minutes. Mais d'abord donc le Mozambique. Au moins 6 morts, je vous le disais, hier dans la répression de manifestations à Nampula, c'est dans le nord du pays. C'est un bilan provisoire qui est dressé par l'organisation de la société civile, la plateforme électorale Decide. Elle déplore également 8 blessés par balle dans cette capitale provinciale. Hier marquait le début de la quatrième phase de contestation électorale à l'appel de Venancio Mondlane, candidat déclaré perdant par la commission électorale mozambicaine à la présidentielle du 9 octobre. Il appelle à manifester jusqu'à demain dans le pays. Ses partisans ont bloqué hier le point de passage de Lebombo, c'est à la frontière avec l'Afrique du Sud. À Maputo, la capitale du pays, en revanche, la situation est restée calme, mais la motivation des protestataires demeure. Pierre Firsion.
Dans le quartier de Machakene, on voit toujours des traces de pneus brûlés sur la route, stigmates de manifestations passées. Hier, la vie a pourtant suivi son cours. Comme tant d'autres, Elisio est allé travailler.
On n'est pas fatigué des manifestations, mais on a faim. On doit travailler. Quand il y a manifestation, ce sont des entreprises qui ferment, des minibus qui ne circulent pas. Les gens sont renvoyés chez eux, ils restent sans emploi. C'est déjà difficile. Imaginez quand on perd tout.
Depuis le début de la crise, les autorités mozambicaines jouent la montre, tout tombe dans les muscles. En ville, le déploiement policier est impressionnant. Nelson soutient le mouvement, mais il a peur.
Certains ont perdu la vie. Aujourd'hui, même si on continue à travailler, on donne du pain, de l'eau aux manifestants dans la rue. Je ne suis pas fatigué des manifestations. Je veux juste que les choses s'améliorent. Beaucoup n'ont pas d'emploi, n'ont rien.
Assis sur son triporteur, Guerra n'est pas inquiet. La contestation est loin d'être finie. Les manifestants attendent juste le bon moment.
Tout semble normal, mais ça ne l'est pas. Préparez-vous à courir, car nous allons mettre le feu. Tout le monde sera là. Hier, ce n'était que le début de la quatrième phase. Mais demain, il y a un match de foot qui risque de ne jamais démarrer, à cause des manifestations.
Demain, l'équipe du Mali rencontrera celle du Mozambique à Maputo. Match qualificatif pour la CAN. Les autorités ont déjà prévenu qu'il serait sous haute surveillance.
Et ce sera à 16h temps universel. On parle du côté sportif de ces qualifications pour la CAN de foot en fin d'édition. Pour l'heure, un mot du Somaliland. C'est l'attente désormais des résultats dans la République autoproclamée indépendante de la Somalie. Après l'élection présidentielle d'hier, les bureaux de vote ont fermé en fin de journée, même si certains sont demeurés ouverts un petit peu plus que prévu. Pas d'incident majeur signalé à cette heure. Pour rappel, 3 candidats étaient en lice, dont le sortant dans cette république non reconnue par la communauté internationale, mais qui organisait sa 4e présidentielle depuis la sécession en 1991. La France a-t-elle violé l'embargo sur les ventes d'armes au Soudan? C'est ce qu'affirme Amnesty International. Image à l'appui, l'Organisation de défense des droits humains montre que des systèmes militaires de 2 entreprises françaises sont utilisés par les forces de soutien rapide au Soudan, les paramilitaires du général Hemeti. Ces groupes privés, KNDS et Lacroix, vendent leur système à une société émirienne qui voit ses blindés de transport de troupes utilisés par les FSR. Pas de réaction, ni du côté des entreprises concernées, ni du côté du gouvernement français, dont le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale est chargé normalement de vérifier les exportations d'armes. Le Soudan et l'aide humanitaire toujours autorisée à entrer via le point de passage d'Adré au Tchad. Autorisation accordée en août dernier et prolongée depuis une discussion ces derniers jours entre le chef de l'armée régulière, le général Burhan, et le secrétaire général des Nations Unies en marge de la COP 29. La réalité sur le terrain, c'est que l'aide ne parvient que peu aux populations qui en ont besoin et que le point d'adresse de toute façon ne suffit pas. Pour preuve, ce blocus que subissent des centaines de milliers, voire des millions de Soudanaises et de Soudanais coincés à El Fasher. Cela fait 7 mois que les paramilitaires assiègent la capitale du Darfour Nord. Une grande partie de la population s'est désormais déplacée vers le camp de Zamzam. C'est à 8 kilomètres d'El Fasher. Justine Musique-Picmal est la directrice régionale de l'organisation non gouvernementale Solidarité Internationale.
En termes de nourriture au quotidien, ils ont accès à un micro-marché qui a un peu de nourriture à l'intérieur. Cependant, c'est extrêmement cher. Donc les gens qui n'ont plus les moyens du tout sont partis sur Zamzam pour trouver de l'aide humanitaire plus directe. L'accès humanitaire est bloqué. Les rares personnes qui arrivent à travailler sont des équipes locales qui restent sur place malgré les bombardements et des attaques. Il n'y a aucun camion qui est arrivé sur El Fasher. On a quelques camions de UNICEF qui sont arrivés jusqu'à Zamzam. On est vraiment sur un tout petit niveau de réponse. Le peu de nourriture qui arrive sur El Fasher, c'est les commerçants d'autour. Koulbouz, qui est une ville qui est juste en dessous d'El Fasher, est un grenier de la zone. On est en plein milieu des récoltes. Donc, oui, il y a des commerçants privés qui passent, mais on parle de centaines de tomates et en centaines de légumes, loin d'être suffisant pour une réponse humanitaire. Et de toute façon, les prix sont tellement faramineux que la réponse est improbable. Un blocus sur les axes aujourd'hui pour empêcher l'aide humanitaire d'atteindre des endroits comme Zamzam ou El Fasher devrait plus être une réalité en 2024.
Un dossier suivi par Alexandra Brangeon. Il ne compte pas prendre part à des élections qualifiées de factices. Les membres de la coalition d'opposition GCAP au Tchad, ils opposent une fin de non-recevoir à la médiation de la sous-région, la CEAC, qui a mené récemment 2 rounds de discussions. C'était fin octobre. La politique tchadienne, ce sont donc ces élections législatives et locales fin décembre. Le parti de feu Yahya Diallo, le parti socialiste sans frontières, va boycotter, tout comme le GCAP. Et il s'insurge contre l'utilisation de son nom, de son logo, par des candidats qui, dit-il, n'ont rien à voir avec lui. On va entendre le porte-parole du PSF dans le prochain Journal Afrique, dans 1 heure. Donc, RFI, pour l'heure, il est 4h37 à N'Djamena et à Bangui. Après 3 ans de suspension, la France reprend son aide budgétaire à la République centrafricaine. Un accord a été signé hier entre l'ambassadeur de France dans le pays et le ministre centrafricain des Finances. La France, pour rappel, avait gelé en 2021 son aide budgétaire à la RCA, jugé complice à l'époque d'une campagne anti-française téléguidée par la Russie. Correspondance, Rolf-Steph Domiale.
Cet appui budgétaire d'un montant total de 10 millions d'euros, soit 6,55 milliards de francs CFA, sera injecté dans 3 secteurs d'activité. Bruno Fouché est ambassadeur de France en Centrafrique.
5 millions d'euros, c'est-à-dire 3,28 milliards de francs CFA, en appui à la gouvernance économique et financière, ce montant permettra d'augmenter les revenus de l'État centrafricain. Deuxièmement, 3 millions d'euros, 1,97 milliard de francs CFA pour la résorption d'arriérés intérieurs. Et enfin, 2 millions d'euros, 1,3 milliard de francs CFA pour renforcer la contribution de la RCA à l'organisation des élections.
Ce financement, qui n'est ni un prêt ni un emprunt, marque un tournant important dans les relations diplomatiques entre les deux pays. Hervé Ndoba, ministre centrafricain des Finances.
Cette aide budgétaire globale va permettre à la République centrafricaine d'accélérer l'ensemble des réformes économiques et financières importantes que nous avons engagées afin de nous permettre d'accélérer le processus de transformation pour une plus grande transparence dans les dépenses publiques.
La reprise de la coopération entre la France et la République centrafricaine intervient après une feuille de route signée en avril dernier entre le président français Emmanuel Macron et son homologue centrafricain Faustin Akonjo Touadéra. Rolf-Steph Domiale, Bangui, RFI.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, un convoi de l'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières attaqué et dévalisé hier par des hommes armés à Kimoka, sur la route entre Sake et Kichanga. Nous sommes là dans le territoire de Masisi, à 20 kilomètres au nord-ouest de Goma. La RDC et le gouvernement congolais qui s'accordent avec le Fonds monétaire international pour 2 nouveaux programmes visant à stimuler l'économie, mais aussi à s'adapter au changement climatique. On parle de près de 3 milliards de dollars pour donc 2 programmes distincts. Les explications à Kinshasa de Pastion Ligodi.
Le premier programme, soutenu par la Facilité élargie de crédit, représente un montant d'environ 1,77 milliard de dollars pour accompagner la RDC vers une croissance plus diversifiée et inclusive. Ce programme, qui s'étend sur 3 ans, exige du gouvernement congolais des réformes strictes, avec un accent particulier sur le respect des procédures de dépenses publiques. Quant au second programme, lui aussi sur 3 ans, est soutenu par la Facilité pour la résilience et la durabilité. Il alloue 1,1 milliard de dollars pour aider le Congo à jouer un rôle central dans la transition mondiale vers une économie bas carbone. Ce programme appuiera des actions de protection forestière, renforcera la résilience du pays face aux catastrophes naturelles liées au climat et encouragera l'intégration des enjeux environnementaux dans la planification des investissements publics. Ces accords seront soumis à l'approbation du conseil d'administration du FMI en janvier prochain. Mais dès à présent, le FMI appelle le gouvernement congolais à intensifier ses efforts en matière de gouvernance, de transparence, notamment dans le secteur extractif, et des luttes contre la corruption, afin de créer un environnement favorable à ces investissements de grande envergure. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI.
Au Bénin, la détention de Joël Aivo est arbitraire. C'est l'avis rendu par le groupe de travail des Nations Unies sur le sujet. Le document est daté d'août dernier, mais il vient d'être rendu public. L'opposant, constitutionnaliste de profession, a été arrêté quelques jours après la réélection de Patrice Talon à la présidentielle d'avril 2021. Au Niger, l'organisation non gouvernementale française ACTED interdite d'exercer. On en parlait en bref hier matin. Vous aurez les détails dans le journal de 5 heures de Paris et de Cotonou dans 20 minutes. Donc direction Madagascar pour l'heure où la saison des pluies se fait attendre. En tout cas du point de vue des agriculteurs, des éleveurs, de la production d'électricité aussi. Mais tout dépend donc du point de vue, parce que là où on habite, dans les bas quartiers, par exemple d'Antananarive, on se prépare à l'arrivée des pluies avec appréhension, comme chaque année. Pauline Le Troquier, il y a des mesures préventives qui sont prises. Reportage.
À Ndavamand, des ouvriers forment des montagnes d'ordures dans le canal C3 bis, l'un des canaux d'évacuation d'eau usée oubliée de la plaine d'Antananarive. Transportés par camion, les déchets doivent définitivement disparaître quelques heures plus tard. Toudz est l'un des ouvriers chargés du curage.
Ici, on souffre vraiment parce que quand l'eau déborde, ça nous arrive au milieu de la cuisse. Les meubles flottent partout dans la maison. Heureusement, cette année, le curage devrait vraiment limiter les dégâts.
Pour affronter cette période, la même chaque année, les habitants misent sur des solutions de fortune pour protéger leur toit. Là où certains se contentent de briques pour surélever leurs meubles, Blandine a choisi une stratégie plus radicale.
Nous sommes certains que l'eau n'entrera plus dans notre maison, car on vient de surélever le plancher d'un mètre. Mais on a toujours peur que l'eau ramollisse les fondations de la maison et qu'elles finissent par s'écrouler.
Dans ces bas quartiers de la capitale, les autorités se rendent chaque année au chevet des sinistrés, mais les réponses d'urgence ne suffisent pas. En dehors des épisodes cycloniques, les fortes pluies ont fait à elles seules au moins 10 morts à Madagascar en 2024. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Mada qui joue ce soir pour les qualifications pour la prochaine CAN de foot qui aura lieu donc l'an prochain au Maroc, Madagascar, Tunisie. C'est à 16h, temps universel. 19h, heure de Tana. Le tenant du titre d'ailleurs valide définitivement son ticket. La Côte d'Ivoire est qualifiée grâce au match nul hier entre le Tchad et la Sierra Leone. Un but partout dans les autres rencontres qui se jouaient ce mercredi. Le Togo a perdu tout espoir après sa défaite 1-0 à Monrovia face au Liberia. Ce sera la 4e phase finale de CAN sans les éperviers togolais. La Namibie et le Cameroun, de leur côté, ont fait match nul 0-0. À suivre donc aujourd'hui Madagascar-Tunisie. Il y aura aussi Lesotho, Centrafrique, c'est en Afrique du Sud. 3e du groupe B derrière le Maroc et le Gabon. Les fauves du Bazoubangui doivent remporter cette rencontre décisive afin de se relancer dans la course à la qualif. C'est également un match test, ce match pour le nouveau sélectionneur centrafricain Eloge Nza Yamissi. Il a succédé au technicien suisse Raoul Savoie, qui a été limogé fin octobre pour mauvais résultat. Même si le contexte est difficile, l'ancien capitaine est déterminé à remporter ce match. Écoutez Eloge Nza Yamissi.
On a passé une semaine de préparation assez tranquille, on a bien travaillé. On a essayé de modifier quelques comportements. On a essayé de mettre en place certains principes de jeu qu'on aimerait bien voir. Mais le plus important, après, reste le terrain, malgré qu'on a très très bien travaillé. Donc, on reste concentré sur ce qu'on a mis en place. Et j'ai déjà une idée de mon équipe, de mes 11 titulaires, j'ai déjà une idée. Donc, ce qui est important, surtout, c'est être déterminé à gagner ce match, quoi qu'il arrive. Mon staff, on a été des anciens joueurs, on partage nos vécus. Et ces moments où il y a beaucoup de pression autour des joueurs et c'est à nous de prendre ces pressions-là et de les soulager par rapport à ça. Je suis conscient de la confiance que les peuples centrafricains m'accordent. Pour d'autres, c'est une pression. Pour moi, c'est une force.
Le sélectionneur centrafricain à suivre également aujourd'hui parmi les autres matchs, notamment Burundi-Malawi, 15h TU et Rwanda-Libye à 16h TU.
Afrique Matin sur RFI.
Et là, tout de suite maintenant, il est 3h45 en temps universel. Vous écoutez Radio France Internationale, c'est Afrique Matin. Retour dans quelques minutes sur cette coupure de courant aux conséquences désastreuses à Mayotte. Elle a touché une usine de potabilisation de l'eau lundi soir. La préfecture promet un retour à la normale aujourd'hui, même si elle conseille de faire bouillir son eau pendant 5 minutes. Ce sera le journal du réseau La Première dans 10 minutes. Avant cela, on va faire le point sur le plan d'aide à la transition énergétique promis par les pays occidentaux à l'Afrique du Sud. C'était lors de la COP26 il y a 2 ans. Maintenant, on va évoquer aussi ces prix qui piquent pour l'ail sur les étals. Mais d'abord, c'est un podcast qui entend raconter des histoires, récits véridiques avec leur part de mythes, d'imaginaires aussi. Nous sommes au Kenya. On a tendu notre micro à 3 femmes, 3 artistes qui sont aux manettes du podcast Cap Brazen. L'idée, c'est de raconter en swahili ou en anglais aux enfants de 4 à 10 ans des parcours de femmes africaines pour leur montrer que tout est possible. RFI reportage Alban Tiroir.
La combattante anticolonialiste kenyane Mekatilili Wamenza, la reine Jinga en Angola ou encore la poète burundaise et militante des droits humains Ketini Viabandi. Chaque épisode de Cap Brazen explore la vie d'une femme africaine qui a marqué le continent, qu'elle soit une contemporaine ou une figure historique, une façon de mettre ces femmes en lumière. Anne Mora, une des auteurs.
Je ne demande qu'à ce que l'on me prouve le contraire, mais à ce jour, je n'ai pas trouvé de programme scolaire qui met en avant le point de vue des femmes africaines. Pour moi, pourtant, et pour notre collectif LAM Sisterhood, c'est essentiel, car nous sommes nous-mêmes des femmes africaines. Regarder notre histoire à l'échelle mondiale et avoir l'impression de ne pas exister, c'est fou. Nous voulions rendre accessibles ces récits pour les enfants à travers le monde.
Aux origines de Cap Brazen, il y a une pièce de théâtre que LAM Sisterhood a montée pour présenter des histoires de femmes, puis l'envie est venue de les raconter aux enfants. Si le projet est éducatif, il doit aussi rester divertissant. Les épisodes mélangent aussi bien des faits historiques que des éléments de récits, de mythes, de légendes et des chants. Aleya Kassam, elle aussi derrière le podcast.
Beaucoup d'histoires de ces femmes sont soit difficiles à trouver car elles n'ont pas été archivées, soit elles ont été confinées dans des espaces académiques, soit elles ont été racontées par des personnes qui ne nous représentent pas. Donc nous comblons les manques avec notre imagination. Il faut garder en tête que nous nous adressons à des enfants de 4 à 9 ans. Il faut réussir à transformer des notions très complexes comme le colonialisme en une histoire que les plus petits peuvent comprendre. C'est là que l'imaginaire joue un rôle.
Les histoires sont racontées par un personnage nommé Auntie Chichi. Laura Ikumbo lui prête sa voix. C'est la dernière membre du trio de LAM Sisterhood. Elle le reconnaît. Choisir les portraits de femmes n'est pas chose facile.
Ce qui était important pour nous, c'était d'abord d'avoir une diversité géographique, c'est-à-dire que les épisodes représentent les femmes de plusieurs pays du continent. Et puis, nous avons aussi voulu une diversité en termes d'expérience, d'histoire, de façon à ce qu'un maximum d'enfants y trouvent un intérêt.
À travers Cap Brazen, Anne, Aleya et Laura espèrent inspirer les plus jeunes. Le trio rêve de voir les épisodes traduits en plusieurs langues parlées sur le continent. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
À suivre, le dossier Afrique Éco sur l'Afrique du Sud et le financement de l'adaptation au changement climatique dans une minute.
RFI, toute l'actualité.
Vincent Dublange.
L'actualité internationale de ce jeudi 14 novembre, c'est le président élu des États-Unis qui continue d'annoncer ses futures nominations. Donald Trump installera en janvier Marco Rubio à la tête de la diplomatie américaine, le sénateur de Floride. Un républicain est réputé hostile à la Chine et à l'Iran. Pour diriger les renseignements, Donald Trump a choisi Tulsi Gabbard, ancienne militaire originaire de Hawaï, transfuge du Parti démocrate. Elle a notamment critiqué l'interventionnisme militaire des États-Unis. Donald Trump, qui a été reçu hier par son successeur il y a 4 ans, et désormais prédécesseur, ou en tout cas futur prédécesseur, Joe Biden, la transition sera la plus fluide qui soit, a-t-il dit. Au Proche-Orient, l'armée israélienne annonce la mort de 6 soldats tués dans le sud du Liban. 47 soldats israéliens sont donc morts depuis le début des combats avec le Hezbollah. L'armée israélienne continue de son côté aussi de bombarder le sud de Beyrouth, la capitale libanaise. L'ONG Human Rights Watch publie de son côté un rapport aujourd'hui. Israël est accusé de crimes contre l'humanité à Gaza. L'ONG pointe notamment le déplacement forcé massif de la population gazaoui depuis plus d'un an. Concernant ce soir le match de football France-Israël, 20h45, heure de Paris au Stade de France, le dispositif sécuritaire est exceptionnel. 4000 membres des forces de sécurité mobilisés, le président Macron, son premier ministre seront présents sur place au Stade de France. Les négociations de la COP28 climat en Azerbaïdjan entrent dans le dur aujourd'hui. Elles tournent toujours autour du financement des énergies renouvelables, de la transition donc énergétique, mais aussi de l'adaptation au changement climatique et puis de la réparation des dégâts déjà causés il y a 2 ans lors de la COP26. Un modèle de partenariat entre les pays occidentaux et un pays en développement avait été mis sur pied. Il concernait l'Afrique du Sud. On parlait à l'époque de 8 milliards d'euros de promesses pour la transition énergétique sud-africaine. 3 ans plus tard, ce modèle a été décliné en Indonésie, au Vietnam ou encore au Sénégal. Côté sud-africain, Claire Bergelès, où en est-on aujourd'hui ?
Un plan d'investissement a depuis vu le jour, estimant à plus de 90 milliards d'euros les besoins afin de réaliser cette transition d'ici 2027. Outre que la somme du partenariat initial est donc loin du compte et qu'elle est constituée principalement de prêts et non de subventions, la distribution des fonds est aussi compliquée selon Joanne Jowicz. Elle gère le financement des projets au sein de la présidence.
Chaque pays amène de l'argent de façon séparée. Les contributions britanniques sont accordées d'une telle façon, les contributions américaine à travers un autre mécanisme et pour d'autres objectifs. Donc, on a affaire à un ensemble d'investissements assez complexes avec chaque pays qui utilise sa méthode habituelle de financement avec l'Afrique du Sud.
Du côté de la société civile, on regrette déjà un manque de transparence au niveau de la distribution des subventions, mais aussi lors du choix des 3 volets prioritaires, décarbonation de l'électricité, véhicules électriques et hydrogène vert, comme l'explique Liane Govindsamy du Centre pour les droits environnementaux.
Je pense qu'il y a eu beaucoup de scepticisme parce que les secteurs prioritaires ont été sélectionnés avant d'avoir consulté les citoyens. Par exemple, pour l'instant, en ce qui concerne les subventions, il y a eu davantage d'argent dépensé pour le secteur de l'hydrogène vert que pour le développement de nouvelles compétences. On peut donc se questionner sur ces choix et se demander si les pays donateurs viennent avec leurs idées prédéterminées ou s'ils écoutent pour savoir ce qui peut fonctionner le mieux en Afrique du Sud.
Après de nouvelles consultations, un plan d'action a finalement inclus d'autres volets à financer. Mais depuis, Pretoria a aussi décidé de retarder de 6 ans la mise hors service d'au moins 3 de ses centrales. Selon Soutame Maimele de l'Institut de recherche TIPS, il n'est pas évident pour le pays, qui produit près de 80% de son électricité à base de charbon, d'effectuer une transition rapide.
Nous avons eu des problèmes de pénurie d'énergie en Afrique du Sud, donc la question de la sécurité énergétique est un sujet clé. Et on sait aussi qu'il y aura beaucoup de travailleurs de la filière du charbon qui seront touchés surtout dans la région de Mpumalanga. En tout, on parle de 150 à 200 000 emplois qui dépendent de la filière.
Beaucoup de questions restent également en suspens, comme le choix du futur mix énergétique du pays. Mais le plus gros pollueur du continent sera bien obligé de transformer ses moyens de production s'il veut continuer à exporter vers l'Europe malgré la taxe carbone aux frontières. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Un Afrique Éco à retrouver comme tous les Afriques Éco sur notre application de podcast RFI Pure Radio. Les matières premières à 4h53 en France. En Espagne, en France, en Égypte, les prix de l'ail atteignent en ce moment des records. Pourquoi ? Parce que les surfaces de culture sont en baisse. Et les rendements également ont baissé sous la pression d'une mauvaise météo et de maladies, Marie-Pierre Olfant.
L'ail chinois représente 80% de la production mondiale et on en trouve bien évidemment partout, y compris sur les étals européens. Mais le ton du marché est donné en Europe par l'ail espagnol. Sur la base de cette référence, l'ail chinois se positionne souvent 1 euro plus bas et l'ail français, par exemple, légèrement au-dessus. Mais les tensions actuelles d'approvisionnement réduisent les différences de prix. L'Espagne a vu en effet ses surfaces diminuer d'un quart cette année. Les maladies, la météo défavorable et des coûts d'assurance qui ont augmenté ont découragé les agriculteurs. L'année dernière, certains ont vu leur rendement baisser de 80%. Conséquence, sur le plus grand marché de produits agricoles vendu en gros celui de Rungis au sud de Paris, le prix de l'ail espagnol a doublé en 5 ans et n'a peut-être pas atteint encore son sommet. En Égypte, le prix de l'ail a été multiplié par 3 entre le début et la fin de la dernière saison de commercialisation qui s'est terminée en juin, faute de volume volumes suffisants pour répondre à la demande. La production a là aussi été délaissée par les petits agriculteurs qui ont préféré cultiver des oignons en raison de leur prix sur le marché local l'année d'avant. Les volumes disponibles ont été pris d'assaut par les exportateurs et se sont vite épuisés. L'un d'eux estime d'ailleurs que la norme va désormais être à des saisons plus courtes, voire à une pénurie mondiale. Mais les prix actuels pourraient jouer un rôle moteur, comme souvent chez les agriculteurs après des années difficiles. En Égypte, c'est déjà le cas. On parle de surfaces qui auraient doublé pour la nouvelle campagne qui se prépare, ce qui annonce une bonne saison 2025 pour ce qui est des volumes, peut-être beaucoup moins pour les prix.
Merci Marie-Pierre Rolfand. À Mayotte, on en parlait hier sur RFI. Retour maintenant avec nos collègues de la première sur cette coupure de courant dans une usine de potabilisation d'eau. Bonjour Alex Léveillé.
Madame, monsieur, bonjour. Pas moins de 6 établissements scolaires des communes du centre et du sud de Mayotte fermés mercredi matin suite à des coupures d'eau. La faute à un incident électrique à l'usine de potabilisation de Louroveni. Les habitants, eux aussi, privés d'eau toute la journée. Une situation compliquée. Une habitante de la commune de Bandéré.
Les choses sont extrêmement compliquées. Le quotidien est difficile. Nos enfants sont à la maison. Ils ne peuvent pas aller à l'école. Ici à la maison, lorsqu'ils ont des besoins à faire, il n'y a pas d'eau dans les toilettes. Nous, les mamans, nous souffrons également de cette situation. Dans nos maisons, ça va pas. Pas d'eau. Voir nos enfants déscolarisés nous déprime parce que l'éducation est très importante de nos jours. On nous dit que l'eau sera de retour d'ici jeudi. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cette date sera respectée? Nous ne savons pas, mais nous prions toujours Dieu pour que la situation s'arrange et que l'eau puisse de nouveau couler dans nos robinets avant même jeudi, Inch'Allah.
Et la distribution d'eau devrait revenir progressivement selon la préfecture. Et c'est suite à une coupure de courant que s'est produit l'incident électrique à l'usine de potabilisation de Louroveni. Les explications de Raphaël Kahn de Mayotte la première.
Des canalisations éventrées, un muret effondré, une partie du sol emportée dans la rivière d'à côté. Et c'était la scène à l'usine hier après ce coup de bélier. Lundi soir, l'électricité se coupe et en l'espace de 10 secondes, la pression devient trop forte. Les tuyaux implosent, 700 mètres cubes d'eau par heure jaillissent comme un geyser emportant le muret et le sol. Selon nos informations, les ouvriers de l'usine ont réussi à rétablir l'eau grâce à une réparation de fortune. Au vu des dégâts, il faudra encore plusieurs jours, voire semaines, pour les réparer complètement. Si l'eau est revenue au robinet, la préfecture maintient son centre opérationnel départemental pour surveiller l'évolution de la situation. L'Agence régionale de santé a déjà annoncé qu'elle allait renforcer ses tests de conformité pour s'assurer que l'eau est potable. En attendant, les habitants sont invités à la faire bouillir avant de la consommer, cette fois pendant au moins 5 minutes.
Raphaël Kahn de Mayotte la première. Et c'est une première justement sur l'île de La Réunion. 16 patients participent à une étude pour vérifier l'efficacité d'une molécule dans le traitement du vitiligo, une maladie de la peau qui se caractérise par une perte progressive de la pigmentation et de l'apparition de taches blanches sur la peau. Cette maladie touche entre 0,5 et 2% de la population, quel que soit le sexe ou la couleur de peau du patient. Bénigne sur le plan médical. Cette anomalie peut conduire à une détresse psychologique sévère. L'étude est supervisée par le docteur Antoine Bertolotti, professeur en dermatologie au CHU de Saint-Pierre. Antoine Bertolotti.
C'est une piqûre avec une anesthésie locale. On met un petit spaghetti sous la peau et qui est censé diffuser un traitement, un nouveau traitement, pour essayer de faire repigmenter la peau. Les patients vont bénéficier du traitement pendant 5 mois, à raison de toutes les 3 semaines. Et ensuite, pendant 5 mois, on va observer ce qui se passe. Est-ce que la repigmentation qui s'est produite se redépigmente? Ou est-ce que ça se stabilise comme il faut? Comment est-ce que ça se passe? Voilà, en réalité, il y a eu quelques patients pour qui ça a très très bien marché aux États-Unis. Ben, voilà, c'est une chance de pouvoir proposer ça à quelques patients réunionnais.
Antoine Bertolotti, professeur en dermatologie au CHU de Saint-Pierre, au micro de Réunion la première. Et c'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous.
Merci beaucoup. également Alex Léveillé. C'est la fin également de cette première demi-heure africaine sur Radio France Internationale. Merci de l'avoir suivi dans une demi-heure. Xavier Besson, à la une de son journal, que s'est-il dit à la COP28 hier pour les dernières prises de parole des chefs d'État africains? Alors qu'aujourd'hui, on va entrer dans le vif des négociations à Bakou en Azerbaïdjan. À la une de RFI.fr et notre appli RFI, ses nouvelles accusations d'exactions contre Wagner au Mali. Dans 30 secondes, François Ballarin.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker.
L'Afroclub, c'est le terrain des musiques modernes d'Afrique et de sa diaspora, avec d'abord une sélection des derniers sons de la nouvelle scène. Des artistes locaux aux stars internationales, vibrés au rythme des musiques urbaines. Et dans notre rubrique Actu, ne manquez rien de ce qui fait bouger les arts et la culture sur le continent.
Chaque jeudi, retrouvez l'Afroclub et faites le tour des tendances musicales afro-urbaines avec musique.rfi.fr.